Bonjour à tous. Bonjour à tous nos auditeurs. Nous voici quasiment au terme de notre série introductive sur l'itinéraire de la musique fusion Black and White. Pour la clôturer, nous nous devions de se consacrer un épisode complet aux deux personnes qui en ont fait la promotion pour que cette musique jazz créée par les Afro-Américains soit reconnue comme un style musical à part entière. Ces deux personnes sont le chef d'orchestre américain blanc Paul Whiteman et le pianiste-compositeur américain blanc lui aussi du nom de George Gershwin. Retenez bien leur nom, Paul Whiteman et George Gershwin. Replaçons-nous maintenant dans le contexte de l'époque. Nous sommes dans les années 1920. Le nouveau style musical créé par les Afro-Américains émerge. Cependant, même s'il attire instinctivement le public, il n'en est encore qu'à ses balbutiements. Et certains le qualifient péjorativement comme une musique discordante, dit-il. Mais le chef d'orchestre Paul Whiteman y croit. Il est intuitivement et intimement persuadé que le jazz est en train d'initier un nouveau mouvement dans le monde de la musique en général. Il décide donc de le promouvoir. À cet effet, il fait appel au pianiste-compositeur George Gershwin pour composer un morceau style jazzy aux fins d'un concert qu'ils intituleront ensemble « Une expérience de musique moderne ». La date du concert est fixée au 12 février 1924. Ensemble, Whiteman et Gershwin se fixent comme objectif de réussir à prouver que le jazz a énormément évolué depuis les débuts de sa création. Ils souhaitent que par leur initiative, ce nouveau style musical puisse être accepté et reconnu, non seulement par le public, mais également par les critiques musicaux de l'époque. La tâche est ambitieuse. Dès le mois de novembre 1923, George Gershwin se concentre sur la composition de l'orchestration du morceau à concevoir pour ce concerto jazz. Il a peu de temps et l'inspiration ne vient pas. La date du concert se rapproche. Nous sommes en janvier 2024. Pardon, nous sommes en janvier 1924, à 5 semaines du concert. Cela devient un défi. Et soudain, l'idée créative arrive. George Gershwin explique, je vous lis sa note, « Je n'avais pas de plan défini à l'esprit. » Pas de structure sur laquelle ma musique se construirait. À cette période, j'ai dû aller à Boston. J'étais dans le train, avec les rythmes de ses rails en acier, ses cliquetis et ses fracas réguliers, très stimulants pour un compositeur. Et là, soudain, j'ai entendu. J'ai même clairement vu ce que cela donnerait sur le papier. La construction complète de la mélodie, du début jusqu'à la fin, m'est apparue. Je l'ai entendu comme une sorte de kaléidoscope musical de notre Amérique, de notre grand melting pot, de notre dynamisme national intégré, de notre blues et de notre folie métropolitaine. En arrivant à Boston, j'avais défini l'essence de la composition entière. Elle s'appellerait Rhapsody. Cette note est signée George Gershwin, mais c'est Ira, le frère de George Gershwin, qui décida d'ajouter dans ce titre le terme « blue », qui définissait à l'époque les notes des jazzmen « blue ». Ainsi, le morceau s'appellera « Rhapsody in Blue ». Le pianiste et compositeur Gershwin, qui joue sa nouvelle œuvre le 12 février 1924 au Hellion Hall de New York, n'a pas eu encore le temps de tout écrire sur sa partition. Gershwin a juste adressé un message écrit à l'attention de son ami Whiteman, qui dirige l'orchestre ce jour J, J comme jazz. Gershwin a mentionné sur ce message « Attendre, mon signe de tête ». Le concert démarre. La salle est comble. Après l'ouverture par l'orchestre et la clarinette, Gershwin lance son signe de tête et se lance tout seul au piano. Fût-ce un succès ! Ce concerto suscita des critiques diverses. Certains le qualifièrent de musique de nègre, ok. D'autres de musique sans forme, ok. Mais d'autres encore, plus nombreux, acclamèrent littéralement le génie du compositeur. Le succès unanime, cependant, arrivera un peu plus tard, beaucoup plus tard, bien plus tard, mais arrivera néanmoins pour la postérité. À tel point qu'il est reconnu aujourd'hui qu'une telle fusion entre la musique classique et le jazz fut inégalée. Et que, indice de succès incontestable, les studios Disney ont fini par mettre en image la Rhapsody in Blue de Gershwin dans leur fameux dessin animé Fantasia. Pour nous quitter et vous souhaiter d'excellentes vacances d'été, c'est bien entendu sur les notes de Rhapsody in Blue que je vous invite à nous retrouver à la rentrée prochaine. Non sans vous remercier d'avoir été fidèle à tous nos épisodes des mercredis de l'histoire tout au long de ces 3 mois de lancement de l'initiative, avril, mai et juin 2023. Merci à vous tous du fond du cœur, chers auditeurs, et merci à Whiteman et Gershwin d'avoir promis le jazz. On se fait donc un signe demain sur les notes de Rhapsody in Blue.